Mais je vais vous le dire en latin, c'est plus précis, on retrouvera en français. C'est le qui. Qui, le ce que, la chose, opposé à mi, qui. Qui, le latin cuisse, si je me souviens bien. C'est-à-dire, ma, c'est la chose. Mais à l'état originel, les éléments qui, organisés, combinés, deviendront les réalités du monde. Alors, l'état du monde, à l'état originel, est appelé les maïm. Maïm, pluriel des ma. En fin de compte, l'être le plus organisé, avant qu'il y ait l'intervention spéciale, particulière, du Créateur pour faire apparaître l'homme, c'est la Behema. Et la Behema se lit. Behema, ça veut dire une bête, un animal. Se lit Ba-ma. En elle, il y a un ma. Et c'est le niveau de l'homme qui va prendre en charge ce ma pour en faire un mi. Est-ce que c'est clair en hébreu? Non, en français. Eh bien, et les maïm sont donc les éléments de la réalité du monde à l'état originel. Et puis, ils sont donnés à une histoire. Et cette histoire est toujours sous l'indice du chiffre 6. 6 jours et le 7e, 6000 ans et le 7e. Alors, lorsque les maïm d'en haut entrent dans le temps de l'histoire, un terme de Messener qui désigne cette catégorie, c'est l'inchronisation. Et vous comprenez en ça vient du grec, inchronisation. Si vous voulez, le fait que la réalité originelle entre dans le monde, donnée à l'histoire du monde dans le temps et l'espace, c'est toujours dans la dimension du Vav. Alors les maïm d'en haut, descendant en bas, deviennent, vous voyez, le Yud descend et devient le Vav, ça devient Moum. En haut, il y a les maïm, en bas, il y a Moum. Qu'est-ce que c'est Moum?
Les défauts.
Défauts. Quelle est la gamatria de Moum, la valeur numérique de Moum?
51.
Non. 86. C'est-à-dire la nature.
Teva.
Oui, Teva. Vous voyez ce qui se passe là? Voilà, vous avez un peu la réponse à votre... Maintenant, je vous donne le verset. Dans la construction du Mishkan, dans la construction du tabernacle, il y avait une pièce de la construction qui était très importante et qu'on appelle Vavé Ha'amudim, c'est-à-dire les Vavs, les crochets, qui tenaient les piliers entre eux et qui faisaient que des différents éléments qui entrent dans la construction du Mishkan, il y a Miksha, c'est-à-dire un tout unique. Est-ce que c'est suffisamment clair? C'est-à-dire cette lettre Vav, entre autres choses, indique cela, indique qu'il y a inchronisation. J'ose pas dire incarnation, akshama, réalisation, entrer dans la réalité. Alors le Vav est le secret des relations à l'intérieur de la réalité, soit spatiale, soit temporelle. Et le... Bon, vous savez la porte.
J'ai dit que ma, c'était bon, même hey, c'était bon, le quoi qui, donc qui a la même...
Non, le quoi, pas le quoi.
Qui a la même valeur numérique que Adam, en fait.
Oui, non, mais en réalité, le mi a la valeur numérique de Adam. Adam, ça reste encore impersonnel, l'humanité en général, c'est le ma du Adam, mais le quelqu'un de l'homme se dit Adam et non pas Adam. Et Adam, c'est en valeur numérique 50, tel qu'est de nous, c'est Adam qui est 40.
C'est ça.
J'ai bien entendu la question, mais la raison pour laquelle la Gemara peut dire Atem Kruim Adam. Bien, alors revenons à notre problème. Il y a donc dans cette indication de Rashi une indication extrêmement importante, c'est que l'exigence de Rabbi est celle du Lachon HaKodesh. Nous avons vu hier quelle était la structure du Sanhedrin. Cette discussion, c'est la discussion modèle entre le Nassi du Sanhedrin, qui représente l'identité Israël au sein des nations, et les Hachamim, qui représentent l'universel des nations intégré au rite d'Israël. Je reprends la formule que j'avais indiquée hier. Pendant que le peuple juif dit le Kriyat Shema, à travers lui, l'humanité tout entière le dit à travers les juifs qui parlent les différentes langues de Kol Lachon. Mais Israël comme tel, c'est en Lachon Hakodesh. Est-ce que c'est bien clair? Vous rattachez cela aussi à la citation que je vous ai donnée hier, que au moment des Midrashim, qui explique aussi au moment de la révélation du Sinaï, la Torah est parlée simultanément en Lachon Hakodesh pour Israël et dans les Shibim Lachon pour l'universel humain. Et c'est cet universel centré autour de son propre centre que représente le Sanhédrin. Vous savez d'ailleurs que l'antisémitisme s'est emparé de ce thème pour en faire le thème des protocoles des sages de Sion, conspiration universelle d'Israël chez les nations. Vous êtes au courant de ce thème. Il y a une part de vérité à cela, si j'ose dire, c'est que tout se passe comme si, à partir, et d'ailleurs la dispersion d'Israël en est le témoignage, à partir d'Israël comme centre, il y a une conspiration de mener le monde entier à la vérité de l'unité des valeurs. Le peuple juif vit cela, il entend souvent être accusé de cela en tant que conspiration, mais il est bien évident que c'est cela qu'il vit. Il est dans l'histoire de sa dispersion comme un immense Sanhédrin dispersé, avec au centre le nasi du Sanhédrin, pour qui la halakha est en Lachon HaKodesh, mais à la périphérie, l'ensemble des Chachamim, pour qui la halakha est Bechol Lachon. Vous voyez que ça touche à différents ordres de problèmes, mais le principe là est extrêmement important. Je pense que ça mérite qu'on y réfléchisse, c'est pas le sujet, mais je l'indique en passant. Cette accusation des protocoles des sages de Sion, à un côté de caricature démoniaque, lorsque le peuple juif est accusé d'une conspiration de malveillance contre l'humanité, en réalité tout se passe comme si, très profondément, il y a une conspiration bénéfique de la part du peuple juif de mener l'humanité à la catégorie de l'unité des valeurs. Si on se demande qu'est-ce que les juifs font dans l'histoire en tant que juifs, finalement, on pourrait récapituler tout ce qu'ils disent eux-mêmes dans cette formule, dans une formule même plus précise, mais enfin c'est celle qui me vient à l'esprit, que nous sommes le peuple qui porte ce témoignage que la seule valeur qui mérite d'être servie, c'est l'unité des valeurs, les idoles étant l'éclatement des valeurs particulières. Ce que le langage moderne appelle les idéaux, mais à la limite, ça revient au même. L'unité des valeurs a éclaté, et c'est ça la dispersion humaine, et tout se passe comme si il y a un propos de délibéré, on appellera ça conspiration lorsqu'on est anti-juif, mais il y a certainement un complot depuis l'origine de la part du peuple juif de mener l'humanité à la catégorie de l'unité des valeurs. La plupart des juifs, à l'échelle individuelle, n'ont pas conscience que c'est cela qu'ils font, mais qu'est-ce qui se fait d'autre? Et nous avons donc une illustration au niveau du rite de ce problème. C'est-à-dire, j'ai souvent fait la remarque que les juifs ont tendance, dans toute société où ils se trouvent, à tel moment culturel de la société en question, d'être au service de la valeur sacrifiée dans la société en question, de telle sorte de réintégrer le principe de l'unité des valeurs. Dans une culture où le principe officiel est la justice et que cela, toute charité. Dans une culture où la vertu officielle c'est la charité et que cela, les juifs sont pour la vertu de justice. Les deux vertus sont authentiques, mais lorsqu'elles sont coupées l'une de l'autre, autonomisées, séparées, elles deviennent la caricature d'elles-mêmes et tout se passe comme si notre monothéisme avait cela comme objectif historique de témoigner du principe de l'unité des valeurs. Voilà donc le point où nous étions arrivés à la fin du cours hier. Alors nous allons aborder assez lentement, parce que nous entrons dans une discussion à plusieurs termes, et sur la manière dont chacune des opinions va être fondée d'après les versets. Pour cela, il nous faut d'abord lire au moins le premier paragraphe du Kriyachma. Alors vous allez prendre le Sidurim. Ceux qui n'ont pas de Sidurim, prenez-le dans le Chumash, c'est Parashat Vayetranan, chapitre 4, si je me souviens bien. Chapitre 5, verset 4. Vous avez à la page 112 du 5e livre du Chumash. Alors, la question qui va se poser à nous tout à l'heure, immédiatement après la lecture, c'est qu'est-ce qui fonde l'opinion de Rabbi que la lecture du Chumash doit se faire comme son écriture en la Lachon HaKodesh, qu'est-ce qui fonde l'opinion des Chachamim qu'elle peut se faire en toute langue? Alors, notre sujet général, c'est la définition de la Kavana du Kriyat Shema, telle que nous l'avons déjà abordée à la fin de la Mishnah avec Rabbi Yoshua ben Korcha. Je vous rappelle, à la fin de la Mishnah, la définition de cette intention de rite, c'est Kabbalah Ol Malchut Shamaim Ve'Ol Mutur. Le fait d'accepter de recevoir sur soi la souveraineté de l'unité des valeurs. C'est d'ailleurs la traduction très exacte de Kabbalah Ol Malchut Shamaim. Avant de l'aborder, je voulais l'éclairer pour ceux qui n'ont pas déjà suivi ces études. Pourquoi dit-on Shamaim, qui veut dire le ciel, pour dire Dieu? Et pourquoi j'ai traduit l'unité des valeurs? Alors je l'éclairerai par le commentaire de Rashi d'ailleurs, c'est la première fois que le mot de Shamaim est commenté par lui dans la Torah. Là aussi, comme Maïm, c'est un mot qui en hébreu n'a pas de singulier. Alors qu'en arabe on dira Sama, pour dire le ciel. Mais il n'y a pas en hébreu le singulier Shama. Et Rashi donne trois commentaires qui tirent du Midrash, en citant le Midrash sur le mot Shamaï. C'est un de ces trois commentaires qui va nous occuper, mais je vais vous les citer les trois. Sham Maïm, c'est la contraction des deux mots, Sham Maïm, là-bas sont les Maïm, Sham Maïm, les Maïm comme on a traduit tout à l'heure. Sa Maïm, ce qui porte les Maïm, Sa Nasso, et puis Eshumaïm. Alors je vais prendre cette troisième explication. Le Esh, le feu, oui, dans l'hébreu, communication des consciences, Esh, c'est le feu. En Lachon HaKodesh, Esh, c'est la mesure de la rigueur, la Midat Adin. Si vous voulez, du point de vue de l'imagerie des choses concrètes par rapport aux valeurs, le feu, c'est la rigueur absolue. Et Maïm, c'est la Midat HaChesed. Et si on expérimente ce qu'est Maïm, l'eau, alors on expérimente ce qu'est Chesed, au niveau des choses concrètes. Maïm, c'est Chesed. En bas, Chesed, c'est Maïm. La racine de Maïm, c'est Chesed. De la même manière, Esh, c'est Din. Din, c'est Esh. Et dans notre monde, il y a éclatement des valeurs. Là où il y a Esh, Maïm disparaît. Là où il y a Maïm, Esh disparaît. Si vous mettez de l'eau dans le feu, du feu dans l'eau, il y a deux résultats. Ou c'est le feu qui s'éteint, ou c'est l'eau qui s'évapore. Mais dans Shamaïm, il y a unité des valeurs. C'est clair ? C'est pourquoi nous disons, d'ailleurs, dans le verset qu'on cite dans la prière, Osé Shalom Bimroma. Celui qui fait la paix dans les hauteurs, parce que dans Shamaïm il y a la paix, et Shumaïm sont en paix, qu'il fasse aussi la paix pour nous. Vous comprenez, c'est encore un tout autre thème, peut-être qu'il faudrait une fois qu'on consacre des textes de séminaire là-dessus. La paix n'est pas de ce monde, la paix est dans le ciel. Dans le ciel il y a la paix, mais sur terre il n'y a pas. Sur terre la paix est impossible, elle est non naturelle. C'est comme montre l'histoire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'exigence prophétique messianique ultime, c'est la paix. C'est le monde transfiguré, la paix. Parce que dans le monde d'en bas, quand il y a Esh, Maïm n'est pas chez lui. Quand il y a Maïm, Esh n'est pas chez lui. Il y a dans une Gemara une agada extraordinaire. Celui qui rêve d'une marmite est un homme de paix. Parce que dans l'imagerie symbolique des rêves, Seule la marmite peut faire la paix entre l'eau et le feu, ça fait la soupe. C'est vraiment bon.
Ah.
Eh bien, le... et donc, Kabbalat Olam Hushamayim, ça veut dire recevoir sur soi la souveraineté du principe de l'unité des valeurs. Et il y a une loi correspondante à ce principe. Ol Malchut Shamayim et Ol Mitzvot. C'est pourquoi d'ailleurs, une parenthèse importante, un code, une règle de conduite suivant telle valeur privilégiée par rapport aux autres. Il n'est pas nécessaire qu'une telle loi soit révélée. La sagesse humaine, livrée à ses propres forces, peut faire la Torah de la charité, la Torah de la rigueur, la Torah de la beauté, la Torah de la fécondité, la Torah de l'efficacité. Chaque valeur pour elle-même, eh bien, le génie humain peut en faire son code. Mais la Torah de l'unité des valeurs, elle ne peut être que révélée. C'est pourquoi on l'appelle Torah Min HaShamayim. Parce qu'il s'agit bien de la Torah de l'unité des valeurs. Nous avons dans la première paracha de Kriyat Shema que nous allons lire cinq niveaux de cette conduite de Kavana. Parce que, suivant la tradition, cela a été signalé d'ailleurs hier par une question, la personne humaine est définie en cinq niveaux d'âme. Et nous avons suivi très rapidement comment, dans notre texte, chaque verset, pour la fin, un groupe de versets, chaque verset va formuler le principe de cette kavana de Ol Malchut Shamayim sur les différents niveaux de l'âme. Pour ça, je vous donne d'abord un schéma très schématique, très rapide. Et de la conception traditionnelle de la personne humaine en relation avec le monde extérieur. Au centre, si vous voulez, il y a Neshama, c'est-à-dire l'âme. Ce qui fait que le chacun d'entre nous, que le chacun que nous sommes est celui qu'il est. Ce qui fait que je suis moi, ma Neshama. Le nom de chacun désigne sa Neshama. Eh bien, cette Neshama est en relation avec le monde extérieur à travers trois véhicules de relation qui sont appelés en hébreu des vêtements, les rouges. Les rouges, le revêtement. Véhicule de relation. Et qui sont, je vais les mettre en... Je ne sais pas comment vous faire le schéma, mais enfin, je vais essayer de me faire comprendre. La Neshama est en relation avec le monde extérieur par le véhicule de l'intention de penser, la pensée. Mahashava.
Levouche, Mahashava.
Bien, le premier levouche est la Mahashava. Tiens. Si vous voulez, il y a toujours, dans la conduite, il y a toujours trois véhicules d'expression et de relation. Ce que vous trouvez dans toute conduite, il y a Mahashava, Dibur, Maase. La pensée, Mahashava, Dibur. La parole, et Maase, l'acte. Mais, en réalité, la Neshama est reliée à chacun de ces véhicules de relation et d'expression par un véhicule récapitulatif qui est la volonté, Ratson. Je veux dire que la relation de la Neshama au monde extérieur ou à autrui est directe par la pensée, par la parole et par l'acte, mais à travers la volonté, le Ratson. Donc, je vais le mettre sous un schéma linéaire. Nous avons donc cinq niveaux. Neshama, Ratson, Mahashava, Dibur, Maase. Bon. Je vous emploie ici le vocabulaire le plus simple. Ces cinq niveaux se retrouvent dans le vocabulaire de la Kabbalah dans une autre catégorisation. Mais nous allons garder celle-là pour la commodité du sujet. En particulier, je vous signale que cette catégorisation éclaire un des problèmes les plus difficiles de la philosophie logique. C'est le problème de savoir si la pensée précède la parole ou la parole précède la pensée. En réalité, du point de vue de la mentalité hébraïque, c'est un faux problème. Chaque conduite est en elle-même les trois harmoniques. Il y a Mahashava, la Mahashava, Dibur, la Mahashava, Mahase, la Mahashava. Et ainsi pour le Dibur, Mahashava du Dibur, Dibur du Dibur, Mahase du Dibur, et ainsi pour le Mahase. Mais la question de se poser, le fait de se poser la question, est-ce que la pensée a précédé la parole, ou est-ce que la parole a précédé la pensée, est en catégorie hébraïque un faux problème. Parce que la conduite de la pensée est spécifique pour elle-même et elle a son propre langage. La conduite de la parole est spécifique pour elle-même et elle a sa propre intentionnalité. Et de même pour l'acte. C'est par trois véhicules de conduite, ou conduite véhiculaire, je ne sais pas comment dire, que la Neshama est reliée au monde extérieur, c'est-à-dire à autrui, mais pour chacune de ces conduites, directement à travers le ratio. Là, j'espère avoir l'occasion de vous parler longuement de ce problème. C'est que ce qui fait que la personne humaine est la personne humaine, suivant la tradition hébraïque, c'est qu'elle est volonté. Le nefesh du nefesh, c'est le raton. Le ani, le sujet, le mot que je cherchais. Dans la tradition hébraïque, le sujet, c'est la volonté, et non pas la pensée. C'est la grande différence avec l'univers philosophique. Et je voudrais bien, si Edith est là, vous avez les Shmona Pratim dans la bibliothèque du Rambam. Si quelqu'un pouvait apporter demain un livre des Shmona Pratim du Rambam, et je voudrais bien vous montrer cela, même hors cours, dans Maïmonide lui-même. Parce que beaucoup d'études ont paru ces temps-ci qui tirent Maïmonide du côté des philosophes, définissant, à la manière de Descartes qui est le plus classique, l'identité de l'homme comme homme, de la personne, du sujet, comme étant premièrement la pensée. En réalité, nous verrons très, très clairement dans son texte que pour lui aussi, il s'agit de la volonté. La pensée est un des niveaux supérieurs de la personne, mais la personne de la personne, ce qui fait que la personne est un quelqu'un, c'est l'être de volonté, et non pas le niveau intellectuel. Je tiens à vous le signaler, parce que je sais que dans beaucoup d'universités, on calomnie Maïmonide en faisant un philosophe. Qu'il y ait, si vous voulez, dans son langage, une possibilité de tirer sa position de ce côté, ça c'est déjà de la manipulation d'historien. Mais il faut lire Maïmonide dans son livre. Alors nous allons lire le texte du Kriyat Shema assez rapidement, et parce que ce n'est qu'une préface à notre problème que nous allons aborder dans la Gemara, de ce point de vue-là. C'est-à-dire cette Kavana de Kavalat Omachum Shamaim, nous allons la lire à ces différents livres. Alors, premier verset. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ça, c'est Kabbalat Kol Malchut Shamayim au niveau de la Neshama. Et d'ailleurs, à qui je m'adresse en disant Shema Israël, je m'adresse à ma Neshama, à ce qui en moi est déjà Israël. Et moi, qui suis dans le Vav des 6000 ans, dans le Vav des 6 jours, dans le Vav de la transition, et moi, qui suis encore en dispersion, je m'adresse à ce qui en moi est déjà unifié, à ce qui en moi est déjà Israël, et je lui dis, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est le même. C'est, j'atteste que je prends sur moi comme principe directeur de toutes mes conduites, le principe de l'unité des valeurs, qui est déjà le Dieu d'Israël en moi. Est-ce que c'est clair quand même, okay? Bon. Donc la Kavana de Kabbalat Malchut Shamayim, au niveau de la Neshama, c'est le premier verset, c'est clair. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et tu aimeras Hashem ton Dieu, ve'chol levavecha de tout ton cœur, ou prol nafshecha de toute ta personne, ou prol meodecha et de tout ton pouvoir. Ça c'est la Kabbalat Malchut Shamayim au niveau du Ratzon. Le problème qui se pose ici, c'est qu'est-ce que ça veut dire un commandement d'amour? Mais à qui s'adresse le commandement d'amour? À la volonté. C'est-à-dire, et déjà nous avons les articulations des trois levushim, suivez bien avec moi, וכל נפשך דיבור, נפש זה דיבור, וכל מאודך מעשה. Voyez quelle est la structure du texte. Lire, encore une fois, premier verset, Kabbalah from Mahout Shamaïm, sur la Neshama, par la Neshama, le centre de moi-même, la Nekuda Merkazi. Deuxième verset, Be'ahavta, Kabbalah from Mahout Shamaïm, sur le Ratzon. Mais avec déjà les trois portes du Ratzon. Une pour la Mahashava, Bechol Levavecha, une pour le Dibour, pour la parole, Bechol Nafshecha, une pour l'acte, Bechol Meodech. C'est clair? Troisième verset. Ve'anu advarim ha'ele asher anochi metzavecha yom al levavecha, et seront ces paroles que je te prescris aujourd'hui sur ton cœur. Ça, c'est Kabbalah from Mahout Shamaïm sur la Mahashava. C'est clair? On continue. Ve'shinaltam levanecha ve'dibartabam. Et tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras. Ve'shivtecha ve'betecha, lorsque tu es dans ta maison, ou ve'shivtecha va'derer, ou lorsque tu es sur le chemin, ou shurvecha ou'kumecha, en te couchant, en te levant. Tout ça, c'est Kabbalah from Mahout Shamaïm sur le Dibour. Et ensuite, nous avons deux versets. Kshartam le'ot ha'yadecha, ve'ayu le'totafot ben'enecha, c'est la Kabbalah from Mahout Shamaïm sur l'acte individuel, la Kabbalah from Mahout Shamaïm sur l'acte en société, avec les deux niveaux, la famille et la ville. Donc, nous avons donc un schéma simple. Voilà le cheminement de la Kavana de Rol Mahout Shamaïm dans l'itinéraire de la Kriya, de la lecture de ce texte. À chaque pas, il y a un niveau de cette Kavana qui se dévoile et qui doit être, donc, dont on doit avoir conscience. Alors, abordons la Gemara maintenant pour bien comprendre la formulation de la manière dont chacune des deux opinions, celle de Rabbi, le Kriyat Shema doit être lu comme il est écrit, et celle des Chachamim, en toute langue, doit être articulée. Je pense arriver déjà aujourd'hui, puisqu'il nous aura encore une heure, à boucler cette lecture. Enfin, il y a Kathleen. Est-ce que vous voulez une hafsaka de 5 minutes ou c'est pas nécessaire? Oui. Alors prenez 5 minutes qu'on aère, mais 5 minutes pas. Alors, la Gemara va poser toute une série de questions, je vais demander un effort d'attention, je vais essayer de mettre cela d'ailleurs au tableau, parce que nous allons avoir une discussion type du Talmud. C'est-à-dire, lorsqu'il y a deux positions par rapport à un même problème, chacun va argumenter sur des versets qui sont communs aux deux positions. Donc, la position adverse a immédiatement le problème d'avoir à rendre compte de la manière dont elle utilise l'argument scripturaire du verset de la position opposée. Et c'était un peu compliqué, vous avez compris. Vous savez, il y a, c'est du point de vue de la méthode même, c'est extrêmement enrichissant d'ailleurs d'étudier le problème de la méthode. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux dossiers qui s'opposent de façon incompatible. On traite des mêmes données, et ces données sont communes aux deux positions. Il y a un phénomène qu'on appelle, je crois, en psychologie contemporaine, l'empathie. C'est-à-dire, il faut que chacun explique sa manière de comprendre l'argument de l'autre, intègre à son dossier l'argumentation de l'autre. En réalité, nous verrons à la fin que les deux sont d'accord, mais qu'il y a une occurrence historique qui fait qu'on doit mettre en évidence une autre possibilité de la halakha. C'était, pour notre problème, l'occurrence de la dispersion. Et maintenant que les Juifs sont dispersés, on ne peut plus demander à tous d'être juifs en lâchant la Kodesh, donc il faut aussi la halakha pour le plus grand nombre. Vous comprenez le problème. Mais il est bien évident que nous aborderons en fin d'étude à deux niveaux. Le niveau idéal, c'est bien entendu l'enseignement de Rabbi, mais transitoirement, tant que nous sommes dans ce vav, alors la halakha est comme les hachamim. Je voulais donner une illustration à ce sujet. Vous avez souvent entendu parler de la grande controverse, la controverse systématique dans la discussion talmudique, c'est Beit Hillel et Beit Shammai. Et de ce principe que la halakha est comme Beit Hillel dans ce monde-ci, mais qu'elle sera comme Beit Shammai dans le monde à venir. En réalité, lorsqu'on étudie chacune de ces propositions, on s'aperçoit que la halakha était comme Beit Shammai au temps de la prophétie. Et que la halakha comme Beit Hillel est dans ce temps transitoire qui nous fait traverser d'un temps hébraïque à un temps hébraïque. Ce que le principe que je viens de citer, halakha ke Beit Shammai, la Olam Haba, indique très clairement. Entre un Olam Hazé et un... Non, je me suis mal exprimé. Entre une étape où il y avait prophétie et une étape où il y aura prophétie, il y a une étape transitoire où la halakha est formulée pour l'étape transitoire. C'est halakha ke Beit Hillel ba Olam Hazé. Halakha ke Beit Shammai ba Olam Haba, ça veut dire qu'elle était déjà antérieurement au Sinaï comme Beit Shammai. Bien. Alors voilà la première question de la Gemara. Maï Tarma de Rabbi, que je vérifie dans votre texte comment c'est écrit, parce que est-ce que c'est écrit en abréviation ou en toutes lettres?
En toutes lettres.
Maï Tarma de Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi? Qu'est-ce qui fonde l'opinion de Rabbi que le Kriyat Shema doit être Kirtava, c'est-à-dire que la lecture doit être comme son écriture? Dans la Gemara, c'est en abrégé. Non, mais si vous avez ces textes-là, ce n'est pas nécessaire que j'explique les abréviations au tableau. Maï Tarma de Rabbi, quelle est la raison que donnera Rabbi? Réponse. Amar Kera Vehayu. C'est parce que le verset a dit, vous allez prendre le troisième verset du Kriyat Shema, Vehayu Hadvarim Haele. Et seront ces paroles, je continue la traduction du verset, Asher Anochim et Tzavecha Ayom, que je te prescris aujourd'hui, Al Levavecha, sur ton cœur. Alors là, nous allons avoir encore un exemple de la différence entre le Lashon HaKodesh et Stam, la langue de communication des consciences. Comment nous traduisons? Verayu Advarim Haele, et ces paroles seront sur ton cœur, et en nous servant du verbe être comme d'un auxiliaire. Alors que au niveau du Lashon HaKodesh, le sens du verbe être n'est plus l'auxiliaire, mais un terme d'essence. Et seront ces paroles, elles seront être, et ça implique la permanence dans l'état où elles sont. Et ces paroles seront, ça veut dire elles resteront comme elles sont. Il y a là toute une réflexion à avoir sur l'importance du verbe être dans le Lashon HaKodesh, j'allais dire dans l'hébreu, oui en hébreu, mais du Lashon HaKodesh. Le verbe être n'est pas du tout employé comme auxiliaire. Par exemple, si en français je dis « je suis debout », je suis assis, ben je ne suis pas debout, je ne suis pas assis, je suis un juif, au niveau de mon essence. Vous voyez que le sens du mot « je suis » n'a plus rien à voir si je l'emploie comme auxiliaire ou si je l'emploie en tant que verbe d'essence. Alors voilà donc comment Rabbi lit. Il lit d'ailleurs comme c'est écrit, vous remarquez l'humour de son argumentation. Il dit, le verset a dit « verayou » et ses paroles seront... Continuons le texte, Verhavayata Niehu. Elles seront dans leur être. Ça veut dire intangible, inchangeable. Elles seront. Ça veut dire que là c'est la dimension de l'absolu, de la pérennité de ce qui a été révélé. Verhayu Advarim Haele, ces paroles seront. Comment accomplir ce et ces paroles seront? Kriyat Shema Kirtava. On les lira comme elles sont écrites. Ça veut dire, j'anticipe un peu dans le raisonnement, mais pour aller de façon plus claire, que dans ce cas particulier de ce que proclame ce passage de la Torah, qui est le principe de la Torah de la Torah, c'est-à-dire le Kriyat Shema, alors il n'y a aucune transposition à faire. On pourra dire tout de la Torah, selon Rabbi, en d'autres langues, mais ce qui fait que la Torah est la Torah, ça on peut le dire qu'en Lashon HaKodesh. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, ces paroles-là, en tout cas, elles seront, donc elles seront comme elles sont. Et lorsque nous aurons à les répéter, nous les répéterons comme elles ont été dites au Sinaï, c'est-à-dire en Lashon HaKodesh. On ne peut pas dire le monothéisme hébreu autrement qu'en hébreu. Voilà, d'une certaine manière, l'argumentation de Rabbi en se basant sur le verset. C'est écrit comme ça. et seront séparés. C'est clair?
Okay.
Voilà donc l'argument de Rabbi. Je vais déjà mettre ça en forme au tableau. Rabbi, Rabbi. On continue?
Oui,
Bahavayatan, Yehud. Dans leur manière d'être, Havayatan, dans leur manière d'être, elles seront. Le Rabbanan, Maitan, Yehud. Et les Hachamim, quelle était la raison pour laquelle eux ont dit non, Bechol Lachon, c'est possible aussi? Réponse des Hachamim, Amar Kera, c'est parce que le verset a dit Shema. Shema en hébreu, ça veut dire écoute, mais ça veut dire entendre, dans le sens de comprendre. Et si je comprends le sens du mot Shema, alors pour obéir à Shema, il faut que je le dise. Je vais nuancer très précisément, que je le dise dans une langue que je comprenne, donc, décision des Hachamim, je peux le dire dans toute langue que je comprends. Vous comprenez tout de suite les questions qui vont arriver. Et qu'est-ce que Rabbi fait de Shema des Hachamim? Et qu'est-ce que les Hachamim font du Vahim de Rabbi? Vous voyez? Alors, allons lentement. Deuxième proposition, l'argumentation des Hachamim. Il y a écrit Shema. Et donc, ce que ce texte me demande, pour que je le réalise, c'est que je le dise dans une langue que je comprends. Alors regardez tout de suite l'affluence des Hachamim. On est averti que la halakha principale, essentielle, était comme Rabbi. Et que les Hachamim, bon, je ne veux pas dire donner un coup de pouce, ce serait exagéré, mais vont jouer sur le sens des termes pour trouver ce que l'on appelle un smach, un smachta, c'est-à-dire une base à leur décision. Pour montrer que ce n'est pas ce que la Torah avait demandé, directement. Ce que la Torah avait demandé directement, c'est bien ce que Rabbi dit. Mais que, étant donné qu'ils doivent décider pour un temps autre, pour une circonstance autre, alors il faut quand même que la Torah laisse dire ce qu'ils vont dire. Eh bien, ils trouvent un smar, un appui, un fondement dans le fait que la Torah a dit « Shema, comprends ». Vous avez senti le glissement de sens. « Shema », ça veut dire qu'il faut donc que je comprenne ce que je dis. Alors il suffit que je le comprenne. Mais je suis passé de « il faut » à « il suffit ». Si déjà je comprends ce que je dis, alors c'est « vechol lachon she'ata shomea » dans toute langue que tu entends, dans toute langue que tu comprends. Il est bien clair qu'on est d'emblée descendu de niveau. Parce que, qu'est-ce que voudrait dire ce shema pour Rabbi? Bien sûr, en lachon hakodesh, et bien sûr que tu le comprends. C'est la chambre à collège. Étonnement, qu'est-ce que ça voudrait dire quelqu'un qui parle en la chambre à collège sans comprendre? Or, nous savons que dans l'histoire, ça existe. C'est ce qu'on appelle l'orthologie. On véhicule des formules authentiques sans les comprendre. On ne sait plus ce qu'il y a dedans, mais on les véhicule orthologiquement. Mais c'est un terme parallèle à orthodoxe ou à orthopraxe, orthologue. Et c'est effectivement ce que la Gemara a dit, avec beaucoup d'ironie pesante, d'ailleurs, des Sadducéens. La notion d'un Kohen Gadol Amaret. Vous avez rencontré ça dans la Gemara. Il a pu y avoir des grands prêtres ignorants. Alors, ils disaient des formules exactes, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il n'était plus dans le cadre du Shema. Vous comprenez le problème. On pourrait se dire, mais c'est une catégorie étonnante. Non, l'histoire montre que, malheureusement, dans la réalité, ça existe. Et au point que la Gemara va jusqu'à dire, raconter, par exemple, que après le Mincha, après le Sedera Avoda, du jour de Kippour, après la grande cérémonie du jour de Kippour, le peuple accompagné Maria Vertalion, qui était des Talmidei Chachamim, des convertis Talmidei Chachamim, avec beaucoup plus de ferveur que le grand prêtre qui était ignorant, et une sorte d'instinct du peuple, du diagnostic de l'identité. Un guerre ne peut pas être Kohen Gadol, mais pas plus qu'un roi ne peut être Kohen Gadol. Donc un guerre ne peut pas être Cohen, donc pas être Cohen Gadol, mais un guerre Talmid Chacham passe avant un Cohen Gadol à Maré. Il y a même une Gemara plus violente, un Mamzer Talmid Chacham passe avant un Cohen Gadol à Maré. Jusqu'où ça peut aller. Bon. Et alors, les deux propositions bien comprises nous montrent tout de suite que la Gemara va conclure qu'en réalité le pshat, c'est-à-dire le sens fondamental du texte, est pour Rabbi, mais qu'il a fallu prendre une décision à cause de l'occurrence historique. Mais que cette décision ne peut être prise que si elle peut être fondée sur le texte quand même. Et le texte donne la possibilité. Alors je reprends l'argumentation. Pour Rabbi, le Taham, c'est Raïm. Pour les Chachamim, que le texte appelle Rabbanan, c'est Shema. On continue. Pour Rabbi Nami, Haktiv Shema. Mais pour Rabbi aussi, voilà qu'il est écrit Shema. Shema que les Chachamim ont interprété Bechol Lashon Shata Shomea. Ahum et Baile. Lui, Rabbi, a besoin de ce mot Shmar pour établir la proposition suivante: Ashmear leoznecha, mashea tamotzi mipicha. Voilà ce que le mot de Shmar va dire pour Rabbi. On est en Lashon HaKodesh. Mais Shmar, ça veut dire fais entendre à tes oreilles ce que ta bouche, ce que tu dis avec ta bouche. Et là, il y a d'emblée deux sens. Pour la halacha, ça veut dire que le shmar doit être prononcé, et pas seulement dans une voix intérieure, mais prononcé par les lèvres, par la bouche, de telle sorte que l'oreille entende ce que la bouche dise. Tchak. Je reviendrai pour expliquer ce principe de halakha. Et deuxièmement, il y a un deuxième sens, celui dont j'ai parlé immédiatement. Rends-toi compte de ce que tu dis. Ce proverbe hébreu, « Fais entendre à tes oreilles ce que ta bouche a dit », ça veut dire « Rends-toi compte toi-même de ce que tu dis. » Je vais raconter la première histoire où ce proverbe juif a été employé. C'est par Abraham parlant à son père Terach. Au moment où vous rappelez le Midrash, lorsque Abraham a cassé les idoles, alors lorsque Terach est revenu du marché, et il a dit à Abraham, qui s'appelait encore Abraham, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il dit « C'est pas moi, c'est le... » Vous rappelez le Midrash. Alors Terach a dit à Abraham, « À moi, tu peux pas dire ça. » Alors Abraham lui a dit, Ashmer leoznecha, mashata motzi mipicha. Fais entendre toi-même à tes oreilles ce que tu dis avec ta bouche. Vous comprenez? C'est-à-dire, une idole ne peut pas casser d'autres idoles. Alors rends-toi compte toi-même. Et vous voyez que Terach était aussi infantile que ça. Terach, c'était le grand prêtre de la Mésopotamie. C'est pas dans la maison de qui, de n'importe qui que Abraham est né. Précisément. Il est né dans la maison, étaient rassemblés les symboles de toutes les valeurs, mais distinctes, et c'est lui qui a pensé le principe de leur unification, compris le principe de leur unification. Et donc, Terach, c'était pas quand même, comment dire, un béotien à ce niveau. Donc, c'est que dans ce Midrash, il y a quelque chose d'extrêmement profond. Par quel argument Abraham a fait comprendre à Terach ce que Terach savait déjà. Vous comprenez ce que vous voulez voir derrière l'apparence de ce qui est raconté dans le Midrash. Revenons à notre problème. Et ce qu'il faut quand même éclaircir, c'est cela. Et que veut dire ce principe de halakha? Et nous voyons que c'est la position de Rabbi. Ça sera la Lashon HaKodesh parce qu'il y avait Ayou. Mais il faut le dire, pas à voix haute, mais à voix suffisamment haute pour que moi, j'entende ce que je dis. Okay? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire cela? Okay? C'est exact, mais la réponse que je vais donner pour le chemin vaut aussi pour la suite. Vous avez juste anticipé la phrase que j'allais dire juste après. Et effectivement, on va intégrer ce que vous venez de dire. Le problème est analogue pour la suite. Voici ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne suffit pas d'une voix intérieure, quoi qu'il y ait une opinion pour qui. Loishmiar leozno yatsa. même si on a formulé en voix intérieure et que ma propre oreille n'a pas écouté, entendu ce que ma bouche a à dire, j'ai réalisé. Mais ça, vous le trouvez dans le Maharal, dans les Netivot Rolam, dans le Netivot Avoda. Le Maharal dit, ça c'est autorisé pour les grandes sadikim, qu'il suffit de la voix intérieure. J'essaierai d'expliquer pourquoi, le Maharal explique comment. Bien entendu, très rapidement, on n'aime pas du tout quelqu'un qui crie quand il prie. Parce que ça voudrait dire qu'il suppose qu'il y a une surdité quelque part. Mais... c'est blasphématoire. Hein? C'est autorisé seulement lorsque le cri vient de la douleur. Ça s'appelle tzaraka. Mais ça ne s'appelle pas tfila. Zaraka avec Zaïd. Ça ne s'appelle pas tfila. Dans l'ostentation, le caractère ostentatoire, regardez-moi, je prie, c'est pas joli. Enfin, c'est pas cachère. Et c'était dans le dialogue entre Eliyahu et le prophète de Bilam. Ça doit être. Mais c'est ceci. Et je le sais vraiment que j'ai dit ce que j'ai dit, que je me suis engagé dans ce que j'ai dit, que lorsque ma bouche a formulé tel ou tel mot, telle ou telle formule. Parce que la voix intérieure est une parmi mille voix intérieures simultanées avec laquelle je me suis engagé. Est-ce que c'est clair? D'accord? Vous avez bien compris le principe. Et c'est pourquoi le Maharal peut dire, les grandes sadikim, ceux qui ont le cœur unifié, ceux qui n'ont pas Echad Bepé, Echad Belev, ceux qui vraiment, chez qui la voix intérieure est une voix unique, et non pas un faisceau de voix contradictoires, hypothétiques, j'ai dit ça, mais je pense aussi en même temps, dans la voix intérieure, en même temps le contraire et autre chose, alors cela non. Pour qu'il ait été dit quelque chose, il faut que ça soit sorti de la bouche. C'est par là que je me suis engagé dans ce que je dis. La voix intérieure, c'est la velléité encore. Mais un grand tzaddik n'a pas plusieurs voix intérieures. Il en a une seule. Parce que sa vie intérieure est